Alors on a le plaisir de marcher quelques cent mètres et après on descend, on traverse à nouveau la frontière, on se retrouve chez le
président. Balade pontoise avec Hendrik.
Toutes les choses en fait, sont possibles, en fait. Tout est activable, ça peut commencer.
Feuilleton radio autour de Pont-en-Royans avec le lieu d'art La Halle Jean Guetteigno qui invitait pour ce printemps 2014 Hendrik Sturm, artiste promeneur.
Imaginez autour de cette cascade, imaginez ensuite de ces bassins.
Fruit d'une résidence à Pont-en-Royans, Hendrik Sturm propose à l'occasion d'une rando commentée une découverte inédite du paysage pontois et ses signes invisibles.
Il faut que je vous explique encore un autre tunnel, parce que là, on est assez rigolo, en fait, de l'eau. Tout à l'heure, vous avez vu la borne, là, vous avez la borne en tunnel. Et si, imaginez autour de cette cascade, imaginez ainsi.
Cinquième épisode.
Et marqué R785. Oui, oui, mais c'est pas 7785, mais c'est pas une plaque en fait du système géodésique. Là, ça présente différemment.
Il y a un niveau d'inondation. Il y a des marques comme ça dans Pont-en-Royans, 1818, etc. Et là, il y a une date 715 ou 785. 1885, je sais pas.
Alors il y a un grand mystère que j'ai découvert il y a 15 jours dans un texte où j'avais jamais vu la deuxième liste. C'est donc les Antonins en 1620, ils sont chassés à Saint-Antoine-d'Abbaye, ils écrivent au marquis: d'une part, vous avez commencé un nouveau four pour le village. Or, nous avons un four à frais partagés et à bénéfices partagés. Donc vous n'avez pas le droit de faire votre propre four. Et donc j'étais très content d'avoir lu ce texte-là. Mais en plus, nous avons entendu dire que vous construisez des nouveaux foulons et à cause de ce détournement des eaux, nous n'avons plus les eaux suffisantes dans la rivière pour alimenter notre pré. Et si vous vous étiez maintenu à vos premiers foulons, eh bien, il n'y aurait pas eu de problème. Ce qui fait que l'endroit des foulons qu'on va aller voir, oui. Est-ce que c'est les deuxièmes foulons ou les premiers premier. Après, j'ai vu une petite remarque qui me fait dire que c'est les deuxièmes. Oui. Et peut-être que les premiers étaient alimentés quelque part ici.
Oui.
Et donc, on pourrait trouver ici, parce que c'est quand même un espace plus ou moins disponible.
Dégagé, oui.
Dégagé, qui aurait eu une arrivée d'eau, qui aurait permis de faire tourner une roue avant 1600, oui. Peut-être. Point d'interrogation. C'est peu compréhensible. Ça, ouais. Oui, il y a un bief de la cascade et...
Mais là, plus bas.
Plus bas.
Je pensais que c'était l'alimentation d'un moulin, parce que sur la carte Cassini, il y a trois moulins entre les cascades et les foulons. Il y a trois moulins qui sont indiqués, donc en 1710, 1701, je crois. Cassini, c'est peut-être plus tardif que ça.
Et en 1505, il y a donc le marquis qui autorise des marchands à construire deux martinets de fer et d'acier et de cuivre près de mes martinets. Mais peut-être que ces foulons, comme c'est aussi des marteaux en réalité qui fonctionnent, peut-être qu'ils disaient les martinets pour les foulons, et c'est peut-être tout ça par ici.
D'accord.
Ou bien c'est tout ça, dans le fond, voilà, on a des questions que des réponses.
Ça c'est fascinant, je trouve, que quand on s'intéresse en fait à un lieu qui a priori qui est assez anodin, en fait quand on fouille soit sur le terrain, comme fait Patrick, soit dans les archives, en fait on tombe sur des questions. Quand les choses deviennent complexes, colorées, et on essaye de se faire une histoire en fait, qui doit être le plus juste que possible.
Oui.
Mais évidemment, il faut travailler aussi avec l'imaginaire pour se projeter, pour imaginer, pour tester, pour avoir des hypothèses. Là, c'est quand même fort, en fait, d'imaginer, là, de faire ça comme tu le fais en fait, en lisant vraiment des textes, comme tu t'intéresses aussi à l'époque médiévale, d'essayer de vivre en fait une échelle si large en fait, d'avoir une idée en fait sur un aménagement du territoire qui se déroule sur 1000 ans. Ça c'est rare en fait, on a rarement cette acuité du regard, de cet
parce
intérêt.
Parce qu'il y a des archives de la famille de Sassenage qui sont restées dans leur château pendant 7 ou 8 siècles,
ouais.
et et que malgré que beaucoup de documents ont été brûlés à la Révolution, un archiviste a pris note des documents. Il a fait un inventaire juste avant. Et donc on a parfois le contenu sans avoir le document. On a les indications.
Et cet château de Sassenage est devenu une archive privée, non ? Un peu le...
Oui, c'est une archive privée. Mais comme il n'y a plus de famille, c'est remis à la Fondation de France. Mm-hmm. Et à la commune de Sassenage qui mm-hmm. ont la main aussi mm-hmm. dessus, je ne sais pas. Mm-hmm. En tout cas, sur le château.
Mm-hmm. Mais ça, c'est évident. C'est-à-dire que je trouve assez intéressant toujours, en fait, pour pouvoir comprendre en fait, un lieu. Souvent, il faut se déplacer. C'est-à-dire que pour pouvoir comprendre ce qui se passe, par exemple, l'usine, l'EDF, il faut aller à Grenoble pour trouver des dossiers, pour trouver en fait, les lieux, sur l'aménagement des territoires plus anciens. Il faut aller dans les archives en fait, du Châtelain pour trouver des traces, documents écrits.
Mais je vais donner un exemple à l'envers, parce que tu n'en as peut-être pas parlé, tu ne comptais peut-être pas en parler, oui. Les Chartreux.
Non, je ne pas...
Tu ne vas pas parler des Chartreux.
Non, mais c'est l'occasion.
Donc, il y a... les Chartreux qui ont été créés à la Grande Chartreuse au-dessus de Grenoble, un de leurs premiers couvents a aussi été installé au-delà de Saint-Jean, au Val-Sainte-Marie. Mais leur vigne était installée le long de la Bourne à Chorange. Et donc ils avaient presque certainement un chemin ici sur le coteau pour rejoindre leur vigne et puis pour ramener le vin au couvent. Et donc sans doute que le chemin que nous avons pris, c'est le chemin des Chartreux. Ce qui fait que dans la rivière qui est là un peu plus bas, on se dit ben, il doit y avoir une traversée. Et d'ailleurs, tout le monde traverse à gué. Mmh. Et tout d'un coup, j'ai trouvé un amoncellement de pierres qui semble être le pont des Chartreux. Voilà. Mmh. Ce début de pont, il débouche dans la terre. Il n'y a rien, il n'y a aucune indication. Mmh. Et c'est le propriétaire du champ qui m'a dit, oui, mais il y a 50 ans, c'était deux champs avec le chemin au milieu qui débarquait, juste dans le tournant, là où on a discuté de la muraille. Ouais. Dans le temps, le chemin allait tout droit et on trouve la pile du pont des Chartreux, à cet endroit-là. Mmh. Mais c'est parce que le paysan, si on veut, m'a dit, non, mon locataire, il a remis rassemblé les deux champs et il ne veut plus qu'on passe là. Mais anciennement, le chemin était là. Et maintenant, bon, c'est très bien aussi qu'on puisse cultiver la terre et qu'il n'y a plus de raison de passer des tonneaux de vin. Mais pour comprendre le terrain, il faut faire à la fois la mémoire orale et les vieux papiers.
Et si possible, les traces matérielles.
Voilà, et la promenade
pour les
trouver.
Pour les relier.
Et les gens qui vont soulever les vieilles branches pour trouver les vieilles pierres qui sont en dessous.
Tout le sacrifice. Tant pis pour les pierres taillées, on va directement au foulon maintenant. On ne sait pas, foulon 1, foulon 2, on verra. Pardon ?
Est-ce que tu as une borne ?
Je pense que comme c'est la seule pierre disponible sur un grand... moi, je me demande si c'est pas une marque d'immolation. On est à peu près...
L'immolation ici ?
La Bourne est là, et on est bien à 7 mètres au-dessus de la Bourne. Il y a une grosse bourne. Et
il y a un
R.
C'est qu'est-ce qui est le R, la signification du R ?
Il faut trouver la signification.
795
ou 5. 795 peut-être. C'est pas une pilule anticonceptionnelle.
Ah, c'est RU.
Oui, mais j'ai dit que c'est pas une borne. Les fameuses bornes que...
Ah, pour indiquer le terrain.
C'est peut-être un arbre remarquable. C'est voilà, le 785. Voilà, il y a un arbre dessus.
Ah, ça fait un peu borne, hein. Ah oui, absolument.
Et la FAPI est en train de recenser toutes les bornes de l'Isère.
Et oui.
Et comme nous sommes ici, c'est un mystère et peut-être que pourront répondre. La Fédération des associations du patrimoine de l'Isère.
Excellent. Ok.
Oui, c'est pour ça que je te parle de bornes.
Thank you.
Ah, s'il vous plaît, venez, si vous voulez écouter l'espoir, pour regarder à l'intérieur de l'usine. Cette usine, là, l'usine de tournage, de production des objets de Saint-Claude. Et vous me corrigez, en fait, la famille Maillet venait du Jura, c'est ça?
Oui.
Du Jura, au milieu du 19e siècle. Ils sont habités la maison, là on a commencé la maison de Catherine et
de Sylvestre.
Sylvestre et
Brigitte.
Et Brigitte. Et ils ont vu, en fait, après quelques années, ils ont vu que cet endroit, cet moulin ici était vacant. Ils ont vu le potentiel, ils ont acquis le lieu plus le droit très ancien d'eau pour faire fonctionner les tours. Et là, au rez-de-chaussée, moi je l'ai vu visiter en fait à deux reprises. Alors je l'ai vu ici, il y a le stockage en fait de bois, il y a un scierie, il y a un gros scierie encore derrière que vous pouvez, je vous conseille en fait en juillet, dès que c'est ouvert, de revenir, de voir les choses à l'intérieur. Il y a des graffitis, encore des pontois qu'ils ont laissés des ouvriers. C'est quand même une usine qui a employé 150, non, combien ?
120.
Ou 120
au maximum.
Et qui a, alors les tours étaient en étage, en fait, c'était alimenté vraiment par un arbre, et toutes les tours étaient par du ruban, étaient alimentées par le roux, le béal qui arrive là derrière. Et le propriétaire qui a eu une entreprise de menuiserie de bois massif, maintenant il a plus son entreprise. Alors pour le temps il a pris goût au fait de cette propriété qu'il a de la famille de sa femme, qui commence en fait à apprendre les tours. Alors il était déjà en sens avec du bois, mais là il s'entraîne maintenant à tourner. Le bois est toujours là, le bois, le buis, le buis d'olivier et d'autres bois. Alors, il n'a que prendre les choses en fait sur place. Les outils sont encore là. Il a juste acheté un moteur électrique pour faire fonctionner un ancien tour. Et Gilles et Catherine l'ont visité, l'ont fait un peu la collection des objets qui étaient tournés ici. Avec des choses très variées. Alors, ils m'ont prêté cette robinet, c'était un des objets les plus connus, mais c'était très varié. Il fonctionnait aussi souvent sur commande, c'est-à-dire que quelqu'un en fait l'a demandé de produire cette série, ils l'ont fait. Et vous connaissez certainement des objets, alors ils ont produit, à un moment donné, ils ont produit des castagnettes, par exemple, c'est la mode des castagnettes.
Industrielle.
Et moi je suis très, très touché. L'électricité, c'est-à-dire que c'était là je trouve qu'il y a vraiment une transmission intéressante. C'est ça? Il y avait cette tradition de tournage en fait très ancien. Les buis, les bois en fait viennent du coin. Et ils ont quand l'électricité en fait s'est développée ici, c'est tout naturel d'utiliser la capacité isolante du bois. Les premières prises étaient en bois. Et là, des choses sont rigolos, en fait, comment les compétences se rencontrent pour créer après des objets ou des choses, en fait, comme toute une usine. Si vous voulez voir la production locale. Alors,
il y avait... Voir les
images, ou par exemple, il y a aussi un outil pour le plombier, par exemple, pour élargir les tuyaux en plomb.
C'est une dame Jeanne, ça?
Non, ça c'est un robinet. C'est un robinet pour mettre sur un tonneau.
Oui, voilà, oui, oui, oui,
dans
bien
un vinaigrier, si vous avez déjà des vinaigriers en terre cuite. C'est pour des fûts. Pour des tas de récipients, on utilise. La dame Jeanne, non, elle est en verre, la dame Jeanne. Donc il ne peut pas mettre un robinet sur une dame Jeanne en verre.
Ça a un nom particulier, ça ne s'appelle pas juste un robinet, c'est clair. Ça a un nom en termes de vigneron.
Voilà.
On en vendait en Angleterre aussi, donc il y en a en mesure anglaise pour les tonneaux de whisky ou pour... je ne sais pas ce qu'on boit en Angleterre, mais ils ont eu besoin de beaucoup de robinets.
Et ça, c'est un peu la, cette petite base là, électrique, c'est un peu le lien pour notre collection que je vais vous montrer avant de prendre les chemins vers les pique-niques. Si vous voulez venir, on va faire un aller-retour de 80 mètres pour une collection d'équipements pontois étonnants. Vous voyez, le public est déjà accueilli par des plantes.
Et donc, c'est visite de groupe. Si vous voulez constituer un groupe avec des amis, faire une sortie, vous êtes les bienvenus. Il faut prendre rendez-vous et on organise une visite. C'est uniquement visite guidée pour des groupes.
Comment ?
Les poulons sur le pont.
Oui. À partir de 2.
À partir de 10.
C'est quoi cet outil?
C'est une pince à gants pour mettre en forme les doigts des gants, puisque Grenoble était ville spécialisée des gants.
Hendrik est parti.
Et ça, ce sont les outils. Alors, nous, on n'est pas suffisamment encore doués pour dire ça, c'est l'outil qui permet. Voilà, ça, c'est un outil qui, pour un objet particulier, parce qu'en fait, ils fabriquaient eux-mêmes leurs outils qui correspondaient à l'objet à fabriquer.
Ouais, tout de A à Z, quoi.
De A à Z. Ils avaient vraiment, c'est fabuleux. Alors, de A à Z, je ne sais pas exactement. La guerre de 40 a bien bloqué les productions, mais après, ils ont fonctionné jusqu'en 85, à peu près.
Oui, quand on est arrivé.
Tout dans la racine du veau, à mon avis, au départ, c'est un peu comme comme on filait le raisin, quoi. On travaillait avec les moyens qu'on avait.
Voilà.
Donc bon, il y a peut-être des pierres qui sont entaillées, qui sont d'anciens outils. On voit quand même encore des formes là. Ici, est-ce que c'était juste une réserve, une retenue d'eau pour alimenter les bièvres? Parce que là, il y a un bièvre qui se balade là-dedans, qui
va alimenter. Un petit peu,
il va y avoir plusieurs étages. Ouais. Quand on regarde au Moyen-Orient comment ils travaillent les laines des tapis, il y a comme ça des bacs de teinture, des bacs de lavage, etc. Non, je pense qu'on n'est pas très loin de ces technologies-là. Mais, là.
Suivre cette balade pontoise avec Hendrik Sturm, artiste promeneur et guide pour l'occasion de ce parcours insolite dans le paysage pontois avec le lieu d'art La Halle Jean Gattegno de Pont-en-Royans et Radio Royans.